RFJ Info.
Le journal de Thomas Nagy.
Bonjour. Des journalistes sud-coréens se renseignent sur le projet de géothermie profonde dans le Jura. La grogne de la population de ce pays asiatique est importante après un tremblement de terre provoqué par cette technique. Les débats du Conseil national ont été interrompus brièvement ce matin. Des manifestants pour le climat ont déroulé une bannière et chanté sur la tribune. Le Parlement discute de mesures pour le climat, mais il ne reste pas de temps pour la discussion, a déclaré un activiste. L'aventure européenne commence pour les clubs suisses engagés en Ligue Europa de football. Young Boys, Bâle et Lugano entrent en lice ce soir et la compétition s'annonce relevée pour les joueurs helvétiques. Le programme météo de ce jour est un peu plus clair, du soleil et aucun nuage. Quant aux températures, elles continuent de perdre quelques degrés par rapport au jour précédent. Il fera jusqu'à 19 en pleine et 15 dans les Franches-Montagnes. Des journalistes sud-coréens s'intéressent au projet de géothermie profonde à Haute-Saône. Ils sont deux à avoir fait le déplacement ces jours dans le Jura pour tourner un reportage. Les deux sud-coréens travaillent pour la chaîne publique MBN. Un tremblement de terre lié à un projet de géothermie profonde avait fait une centaine de blessés et engendré des dégâts à hauteur de 300 millions de dollars en 2017 à Pohang, en Corée du Sud. Les deux journalistes s'entretiennent donc ces jours avec plusieurs acteurs concernés par le projet jurassien qui est aujourd'hui en pause. Un des journalistes envoyé dans la région nous explique ce qui l'amène.
Nous avons fait le voyage en Suisse et dans le Jura pour trouver des réponses aux questions que se pose la population coréenne. Après le tremblement de terre à Pohang, les promoteurs et des scientifiques sont venus dans notre pays pour analyser ce qui s'y est passé. Il y avait déjà eu des problèmes après un forage du même promoteur à Bâle quelques années avant le projet sud-coréen. Notre gouvernement le savait, mais il a accepté la réalisation d'une installation de géothermie profonde à Pohang. Les Coréens veulent maintenant savoir pourquoi et comment. Notre population veut des garanties que ces autorités avaient bien étudié le projet de Pohang avant de lui donner son feu vert. Beaucoup de Coréens sont fâchés parce qu'ils ont l'impression que le forage de Pohang a été fait dans leur dos en toute discrétion. Et quand les problèmes sont survenus, le gouvernement s'est très vite défilé.
Pour rappel, le projet de géothermie profonde est actuellement en pause dans le Jura. Le ministre jurassien de l'Environnement, David Herret, et les services cantonaux doivent consulter un rapport d'experts suite au tremblement de terre à Pohang. Une décision sera prise ensuite quant à l'avenir à donner au projet de Glovelier. La santé sur le billard en vue des élections fédérales. Nous vous proposons une série de matinales spéciales débats avec les candidats jurassiens. Ce matin, nous avons parlé de la thématique de la santé avec Thierry Froidevaux de l'UDC, Pauline Godat des Verts, Gaëtan Voirol du PLR et Suzanne Maître-Schindelholz du PCSI. Alexandre Rosset leur a demandé sur quoi ils comptaient plancher dans le domaine de la santé une fois au Palais fédéral. On écoute tout d'abord Thierry Froidevaux.
Alors justement, augmenter le budget alloué à la prévention, une meilleure harmonisation et coordination des soins pour éviter, comme vous dites tout à l'heure, des doublons et des examens qui se font un double. Et puis, une vision globale finalement de la prise en charge des patients pour éviter de perdre du temps et d'augmenter des frais inutilement.
Thierry Froidevaux.
Moi je vais faire simple, je suis vierge de lobbyiste et puis je vais y rester.
Et Suzanne Maître-Schindelholz, pourquoi souhaitez-vous vous battre à Berne dans le domaine de la santé?
Pour beaucoup de choses, hein. La prévention aussi, bien sûr. Mais j'aimerais aussi que l'on prenne conscience de l'information qu'on doit donner aux patients. On est tous acteurs de notre santé. Et puis là, il faudrait aussi nous aider mieux à gérer notre santé. Donc par rapport aussi à la facture qu'on devra recevoir, là, c'est une proposition du Conseil fédéral, je trouve que c'est important. Important qu'on puisse chacun être responsable de ce qu'on fait. Et ça, c'est tout un apprentissage qu'il faudrait aussi faire. Et puis là, je pense que la Confédération peut aussi aider. Et puis il y a tout ce qu'on peut mettre en place pour réduire ses coûts.
Et on termine avec vous, Gaëtan Voirol.
Alors les deux points pour moi qui seraient les plus importants à gérer en premier lieu, c'est déjà la transparence. Que les gens sachent exactement combien ils payent. Donc effectivement, c'est l'une des propositions du Conseil fédéral à l'heure actuelle. Et puis la deuxième chose, c'est éventuellement de faire un fonds commun où toutes les caisses mettent leur fonds de réserve commun pour essayer de faire enfin diminuer ces primes.
Et vous aurez entendu, là, c'est Pauline Godat qui a pris la parole au début de ses interventions et non pas Thierry Froidevaux. Vous retrouverez ce débat en entier sur rfj.ch et vous pourrez aussi le découvrir en vidéo. Demain, nous parlerons économie et emploi avec Nicolas Kocher du PLR, Joachim Martins du PS, le sortant PDC Jean-Paul Gschwind et Jean-Marc Coman des Verts. Une légère augmentation enregistrée par le secteur de l'horlogerie. Les chiffres pour le mois d'août ont été publiés ce matin par la Fédération horlogère suisse. Les exportations ont enregistré une progression de 1,5% sur un an. Leur valeur se monte à 1,5 milliard de francs. Les précisions de Nancy Chapuis.
La branche horlogère continue donc sur sa lancée, mais toutes les montres n'ont pas connu le même succès. Ainsi, les ventes de celles en dessous de 500 francs ont chuté, une baisse à deux chiffres, alors que les garde-temps de plus de 3000 francs ont connu une croissance de plus 7,4%. Conséquence, le volume total d'exportation est en baisse, 220 000 unités en moins. Durant ce mois d'août, c'est au Japon que la croissance est la plus importante. On y a vendu un tiers de plus de montres suisses. Les États-Unis et la Chine sont aussi bien placés avec plus 14%. À noter que le pays de l'oncle Sam reste le principal marché d'exportation talonné par Hong Kong. La fédération horlogère craignait d'ailleurs une baisse marquée sur l'île en lien avec les manifestations en cours depuis plusieurs mois. Elle se situe à moins 13%. Et il ne faut pas compter sur l'Europe qui connaît une diminution de moins 2,7% en raison notamment du résultat au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie.
Le nombre de personnes en surendettement a continué de progresser en Suisse et notamment dans la partie romande du pays. Environ 561 000 personnes, soit 6,5% de la population, se trouvent dans une telle situation, selon le relevé de l'Institut CRIF et du portail comparis.ch publié aujourd'hui. Le chiffre a progressé de 22% depuis 2016. La situation est particulièrement alarmante en Suisse romande. Neuchâtel présente le taux de débiteurs le plus élevé avec 10,9%, suivi de Genève à 10,4%. A l'inverse, Appenzellrode intérieur affiche 1,6% et Uri 3%. La Banque nationale suisse annonce aujourd'hui qu'elle revoit à la baisse ses prévisions de PIB et d'inflation pour l'année en cours. L'Institut d'émission table désormais sur une croissance entre 0,5 et 1% contre 1,5% en juin. La nouvelle prévision se base sur un affaiblissement des perspectives de croissance et d'inflation à l'étranger ainsi que sur l'affermissement du franc suisse. Elle repose également sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à moins 0,75% pendant les trois prochaines années. Fait rarissime, des activistes ont perturbé les débats du Conseil national ce matin. Des manifestants pour le climat installés dans les tribunes se sont levés pour chanter et ont déployé une banderole annonçant en anglais le compte à rebours final et plus que 16 mois. La discussion qui portait sur des questions militaires s'est interrompue alors que la conseillère fédérale Viola Amherst était à la tribune. Le récit de Jérôme Favre.
Das lediglich mit kleinen...
Il est environ 8h30 lorsque la ministre de la Défense, surprise, laisse sa phrase en suspens. L'interruption est diversement appréciée. On voit certains battre des mains en rythme à gauche.
C'est une intervention bon enfant qui rappelle l'urgence d'intervenir. Je pense que c'est important que cette préoccupation elle traverse les murs du Parlement.
Abbiamo visto il vostro manifesto, vi prego per favore di toglierlo. Grazie.
Mais pendant que les manifestants sont calmement évacués un par un, à droite et au centre, on s'agace plutôt.
C'est une incursion dans le Parlement qui ne peut pas être acceptée et qu'ils manifestent sur la place fédérale. Ça ne me gêne pas. Mais ils sont entrés, je pense, de manière inopportune.
Je crains que pour le futur, ce non-respect des directives internes au Parlement va entraîner un durcissement des mesures d'accès pour tous les braves gens.
La conseillère fédérale Viola Amherst elle-même n'aura finalement que peu goûté la chose.
Je soutiens l'engagement des jeunes. C'est bien quand ils engagent pour des thèmes importants comme le climat, mais on ne devrait pas déranger les débats.
Dopo questa interruzione...
Une fois les activistes évacués, les débats ont tranquillement repris leur cours.
Signora consigliera federale.
Besten Dank, Frau Präsidentin.
L'identité des fauteurs de troubles a été relevée. Délégué à la sécurité du Parlement, Andreas Wortmann restait stoïque après l'incident.
La sécurité du palais et des personnes qui étaient dedans était toujours garantie. Le contrôle était correct, il n'y avait pas des armes. C'était la volonté et c'est toujours la volonté politique que le palais est ouvert au public.
Le fait qu'on puisse introduire une banderole, ça avait l'air de heurter certains conseillers nationaux.
C'est probablement pas agréable, mais c'est pas un risque de sécurité. Une banderole, on peut mettre dans un sac et on peut, dans le contrôle, il n'y a rien qui se voie. La sécurité, elle est toujours garantie.
Et la dernière manifestation non autorisée au sein de la salle du Conseil national avait été en décembre 2017, le fête du groupe UDC célébrant les 25 ans du non à l'espace économique européen. Dans l'actualité à l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé aujourd'hui son rival Benny Gantz à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Son intervention survient deux jours après les élections législatives qui n'ont pas permis de déboucher sur une majorité. Pour Benjamin Netanyahou, il n'existe pas d'autre choix que de former un gouvernement d'union aussi large que possible. Les résultats encore provisoires des élections législatives créditent le Likoud de Benjamin Netanyahou de 32 sièges sur les 120 de la Knesset, contre 33 pour le parti de l'ancien général Benny Gantz. Aucune des deux formations ne peut atteindre la majorité de 61 sièges malgré l'appui de leurs alliés respectifs.
RFJ, il est 12h26.
Sport. Les clubs suisses entament ce soir leur campagne européenne en Ligue Europa. Éliminés en qualification pour la Ligue des Champions, Young Boys débutera d'emblée par un gros morceau avec un déplacement à Porto. Le FC Bâle, privé lui aussi de Ligue des Champions, reçoit les Russes de Krasnodar. Et enfin, Lugano se déplace à Copenhague, une phase de groupe qui s'annonce très relevée pour nos clubs suisses, Jérémy Pignard.
Oui, à commencer pour Young Boys qui a joué la Ligue des Champions l'an dernier. IB ne sera pas trop dépaysé parce qu'en face, ce sera du lourd avec Porto habitué de la C1, le Feyenoord Rotterdam et les Écossais de Glasgow Rangers, groupe très dense donc. L'entraîneur bernois Gerardo Seoane est impatient mais conscient de ce qui attend son équipe.
On se réjouit d'entrer dans cette compétition. C'est un match de Ligue Europa, mais l'adversaire est du calibre de la Ligue des Champions. On s'attend à affronter une équipe au-dessus du lot sur le papier dans cette phase de groupe. Porto est une top équipe, très forte à la maison, techniquement très douée. On doit donc être très bien préparé, surtout que c'est pour nous le début de 3 semaines anglaises avec un match tous les 3 jours. On a donc un programme très difficile devant nous.
Ce sera en revanche un peu moins clinquant sur le papier pour Bâle et Lugano, mais pas forcément plus facile. Dans le groupe des Bâlois, on retrouve Getafe qui a réussi l'an dernier à se hisser à la 4e place du championnat d'Espagne, juste derrière les 3 monstres que sont le Barça, le Real et l'Atlético, ainsi que Valence. Les Turcs de Trabzonspor, eux, possèdent des joueurs d'expérience comme Daniel Sturridge, ex-Liverpool, John Obi Mikel, ex-Chelsea ou encore l'expérimenté portugais João Pereira et les Russes de Krasnodar. Dès ce soir, ne seront pas faciles à bouger. Malheureusement, ses adversaires risquent, Thomas, de ne pas forcément attirer les foules au Parc Saint-Jacques. Même cas de figure pour Lugano qui devra cravacher face au solide Dynamo Kiev, au champion danois Copenhague et à Malmö qui sera sans doute l'équipe à battre pour les Tessinois.
Coup d'envoi des matchs de Bâle et Lugano dès 18h55. Young Boys jouera en revanche à 21h. Formule 1, l'écurie Haas conservera la saison prochaine le duo de pilotes formé par le franco-suisse Romain Grosjean et le danois Kevin Magnussen. L'équipe américaine a fait cette annonce ce matin. Haas fait donc le choix de la continuité et de l'expérience, selon les mots du team principal Günther Steiner. Haas a ainsi renoncé à remplacer Romain Grosjean par l'allemand Nico Hülkenberg, dont le contrat avec Renault n'a pas été reconduit la saison prochaine. Belle journée.
Et d'un point de vue météorologique, elle sera belle cette journée, elle continue à l'être plutôt. Le temps est toujours bien ensoleillé, quelques nuages planeront ci et là, mais rien de bien dramatique, loin de là. C'est le soleil qui tiendra la place et qui régnera en maître dans un ciel presque dégagé. Les températures, elles sont fraîches en cause de la bise qui soufflette toujours et encore depuis hier. Elles oscillent actuellement entre 17 et 19 degrés. Météo News annonce un redoux à partir de demain avec toujours un temps bien ensoleillé.